Le sujet, c'est événement. Alors, il a été écrit sur la feuille avec un accent grave. Je tiens à préciser que c'est pas moi qui ai tapé le titre. Même s'il y a eu une longue discussion en français pour fixer l'accent de événement, parce que c'est un mot qui a été calqué sur avènement. Mais ça se prononce événement, mais c'est quand même un accent aigu. Et alors, non, j'avais préparé, je me disais, quand j'ai vu que la salle était vide, j'avais pensé à introduire en citant un propos du philosophe Wittgenstein qui dit: quand je suis rentré chez moi, je m'attendais à une surprise, et il n'y en avait pas. Évidemment, j'ai été surpris. Et ce qui pourrait expliquer que l'événement n'est pas forcément quelque chose qui se produit, c'est parfois quelque chose qui n'arrive pas, comme une conférence sans public, par exemple. Mais j'ai pas besoin de cette introduction, mais comme c'est peut-être la meilleure idée de la soirée qui me traverse l'esprit, je la fais quand même partager. Alors, pourquoi j'ai proposé de parler d'événements dans ce cycle des mots pour comprendre notre temps? Parce que jusqu'à une date récente, les événements appartenaient essentiellement au passé. C'était à l'histoire, en tout cas au souvenir, de retracer les événements. Et simplement parce que l'événement était le résultat, parfois inattendu, et en tout cas difficilement prévisible, d'une série de causes que les gens enclenchaient, ils avaient des projets, etc. Et puis l'événement, c'est ce qui survenait comme résultante de leurs efforts, ainsi que d'autres facteurs qui pouvaient être climatiques, historiques, etc. Le mot vient de evenire en latin, survenir. Ça suggère l'idée de résultat et aussi l'idée de hasard, eventus en latin, à cette idée de résultat inattendu, de surprise, donc. Et par conséquent, on constatait l'événement une fois qu'il s'était produit. Et on sait que, par exemple, l'histoire qu'on appelle événementielle est celle qui se contente de rapporter la succession des événements du passé. Il est de bon ton de trouver ça ringard, l'histoire événementielle. Or, aujourd'hui, l'événement s'accorde bizarrement avec le futur. On est convié, pardon, à des événements. Ne manquez pas le concert événement de Johnny. Ne manquez pas la conférence événement sur événement. Et il y a même un métier qui consiste à organiser des événements. Et peut-être même qu'on connaît des gens qui sont spécialisés dans l'événementiel, qui ne sont pas du tout des historiens ringards. Mais au contraire, c'est la fine pointe, c'est l'élite professionnelle de la société festive, donc qui fonctionne à grands coups d'événements annoncés. Et de manière assez régulière, maintenant, quand on consulte le programme d'une institution qui organise des conférences, des concerts, des colloques, etc., eh bien, ce programme mentionne les événements. Et c'est toujours au futur. Je ne sais pas si c'est peut-être moins habituel encore en français, mais en tout cas sur n'importe quelle institution anglaise, une université, etc., quand il y a events, ce n'est pas le journal de bord de ce qui s'est passé, mais c'est vraiment le programme de ce qui va se passer. Et donc l'idée, c'est qu'on peut organiser des événements, qu'on peut les prévoir, qu'on peut inviter des gens pour qu'ils participent à un événement, qu'il existe une profession consistant à fabriquer des événements. Et tout ça est assez nouveau. On pourrait dire, en un certain sens, que la direction du temps s'est inversée, que le hasard n'a plus vraiment de place, que l'événement n'est plus de l'ordre de l'imprévu. Même quand on annonce un heureux événement, donc là, c'est des événements qui sont annoncés, mais il y a toujours l'idée qu'il va y avoir une surprise. On ne sait quand même pas, normalement, est-ce que ça va être un garçon, est-ce que ça va être une fille, à quoi il va ressembler, est-ce qu'il aura les yeux de sa mère, etc. Donc tout ça c'est le sens classique. Et le sens contemporain, le sens moderne, c'est un événement qui est programmé, qui est organisé et que l'on peut annoncer à l'avance. Donc avec un peu d'emphase, je vais essayer de ne pas être trop emphatique ce soir, on pourrait suggérer que cette mutation du mot traduit un changement métaphysique. Auparavant, les gens faisaient des plans, ils avaient des projets, des intentions, ils s'efforçaient d'obtenir certains résultats, mais l'événement lui-même, le résultat final, l'issue, comme on dit, dépendait, disons, de Dieu. Il y avait un adage, hein, l'homme propose et Dieu dispose, qui résume bien cette conception de l'événement. Aujourd'hui, on pourrait dire c'est l'homme qui dispose. Il a pris l'événement en main et s'est fait un métier, s'il est spécialiste de l'événementiel, de ce qui était autrefois réservé à la providence. L'événementiel, c'est devenu un job. Pour parler de Job, hein, s'il avait pu rencontrer un spécialiste, parce que c'est un livre qui est réputé pour donner une théologie de la providence, si Job avait rencontré un spécialiste de l'événementiel, évidemment, il a sans doute évité un certain nombre de déboires dans son existence. Alors, le propos de ce soir, c'est de réfléchir ensemble sur cette singulière mutation du mot « événement ». Alors, je vais commencer par essayer de creuser un peu plus ce qu'on appelle aujourd'hui « événement » et ensuite d'essayer de remonter dans la... de retrouver l'origine de ce sens singulier qui n'est pas, même si le mot a acquis ce sens récemment, il plonge ses racines, je crois, dans une conception intéressante et originale de l'événement et même de l'histoire et de la poésie. Donc l'événement au sens événementiel du contemporain, hein, ce ne sont pas, on l'a compris, les événements au sens habituel. Hein. Si on fait un petit effort, comme on est au tout début du mois de février, pour se rappeler les grands événements de l'année 2011, on va penser tremblement de terre, enfin je sais pas quoi, catastrophe de Fukushima, peut-être crise économique, les révolutions arabes, la mort de Steve Jobs, puis on a des événements intimes évidemment, la naissance de Paul, etc. Bon. Mais on ne pense pas du tout aux innombrables événements auxquels on a été conviés pendant l'année 2011. Tous ces événements annoncés, auxquels peut-être même on a participé, mais qui rétrospectivement ne font pas du tout événements. Ces événements qui, programmés, annoncés, se sont tenus dans des salles de concert, dans les auditoriums, en plein air, dans les catacombes, dans des entrepôts industriels désaffectés, des églises reconverties, etc. Enfin, tous ces lieux qui sont prisés par les spécialistes de l'événementiel. On a compris depuis longtemps que le mot « événement » dont parlent les spécialistes en question avait un sens spécial. C'est un mot qui sert à désigner de préférence une festivité de type culturel, du genre spectacle. Un concert, une exposition, un colloque avec des invités prestigieux, parfois un mariage princier. Je pense qu'il y a des spécialistes de l'événementiel, évidemment, qui ont organisé la noce de Kate et... J'ai oublié comment il s'appelait. L'autre. William, merci. Voilà, alors, donc quelque chose, hein, cette organisation d'événements qui suppose des moyens, qui suppose des spécialistes. Hein, et l'événement tient son statut d'événement de cette rencontre programmée entre le projet des organisateurs et la présence du public. C'est important d'annoncer les événements parce que, évidemment, si personne ne sait qu'il va avoir lieu, personne n'assistera à l'événement et l'événement risquera de devenir un non-événement, un petit peu comme cette conférence a failli... devenir un non-événement. Alors, pour passer à un degré d'élaboration philosophique brutal, hein, on peut dire que cette mutation du mot « événement », c'est le passage d'un statut transcendantal à un statut prédicamental. Le mot « événement » était un terme transcendantal, il est devenu un terme prédicamental. Je m'explique. C'est un vocabulaire qui vient d'Aristote, qui vient de la logique d'Aristote. Et ce qu'il appelle un terme transcendantal, c'est un terme qui transcende les catégories, c'est-à-dire un terme général qui n'appartient pas à une catégorie particulière. L'exemple type du terme transcendantal, c'est le mot « chose ». Chose est un mot transcendantal parce que si je parle de chose sans plus, sans préciser, il est impossible de savoir de quel genre de chose je parle. Par exemple, si je demandais combien il y a de choses dans cette salle, eh bien, nous serions embarrassés faute d'un critère pour identifier ce qui va compter comme chose. Est-ce que je veux compter des meubles, par exemple ? Est-ce que je veux compter des objets ? C'est un peu plus étendu que meubles. Est-ce que tout ce qui est inanimé va compter comme chose ? Est-ce que cette table compte pour une chose ? Ou bien est-ce qu'il faut compter aussi les pieds de la table comme des choses différentes ? Est-ce que les couleurs peuvent compter comme des choses ? Terme donc transcendantal parce que chose est absolument générique. On peut dire que tout existant mérite le nom de chose et qu'il nous faut ensuite une catégorie spécifique pour classer l'existant. Et par contraste, un terme prédicamental, par exemple le mot meuble, si je demande meuble, comme il faut dire ici, si je demande de compter des meubles, eh bien on sait ce que je dois compter, on peut identifier des meubles. comme on peut identifier différents vêtements, on peut identifier des personnes, on peut identifier des outils, etc. Alors, événement, à l'origine, on pourrait dire, est un terme transcendantal. Un événement, c'est ce qui arrive. Quoi qu'il arrive, littéralement parlant, cet événement. Cette soirée est un événement en tant qu'elle a lieu, elle est ce qui arrive ce soir au collège supérieur. Mais en ce même lieu, au même moment, se déroulent toutes sortes d'événements. Peut-être que quelqu'un est en train de tomber malade parce qu'il a attrapé froid. Peut-être que la photocopieuse tombe en panne. Peut-être que je peux faire tomber mon stylo par terre. Et c'est un événement qui est arrivé au stylo, il a chu. Un participant peut s'endormir, c'est un événement désagréable. Une mouche se cogne au néon, c'est un événement. Si on n'a pas de critère spécifique de l'événement, si on n'a pas un critère d'identification, si on ne sait pas de quel genre d'événement on veut parler, on ne saurait compter les événements en cours. Pas plus qu'on ne peut dénombrer sans plus les événements du passé. Tout événement retenu par l'histoire, une grande bataille, la bataille de Verdun, ou je sais pas quoi, on peut dire, bon, ça c'est un événement, mais strictement parlant, cet événement est une somme d'un nombre infini d'événements que l'on pourrait, que l'on ne pourrait pas dénombrer. Un mouvement de troupes est un événement, une embuscade est un événement, un orage qui déjoue un plan de bataille est un événement. La mort d'un soldat est un événement, mais également la chute d'un bouton de guêtre. Il est évident qu'en ce sens-là, la plupart des événements se passent de spectateurs. Ils n'ont pas besoin de spectateurs pour arriver. Et alors, dans le sens actuel, événement est devenu très nettement un terme prédicamental. Quoi que ce soit qui arrive, quelque chose qui arrive. C'est un mot qui désigne une catégorie spécifique. Un spécialiste de l'événementiel, c'est pas un généraliste de l'événement, c'est pas un généraliste de l'événement au sens transcendantal, c'est quelqu'un qui peut vous organiser un concert, qui peut vous organiser une exposition, mais pas quelqu'un qui peut vous aider à faire face à un événement au sens ordinaire, comme une épidémie, par exemple, ou une révolution. Pour un spécialiste de l'événementiel, une révolution n'est pas un événement, c'est pas de ce genre d'événement qu'il s'occupe. Même la mort d'une star n'est pas un événement. Éventuellement, c'est un problème à gérer s'il y avait un concert prévu avec la star, un concert événement prévu avec la star. Mais la mort de la star n'est pas un événement, c'est ce qui bousille l'événement. Donc, la seule solution du spécialiste événementiel, évidemment, c'est de transformer les obsèques de la star en événement. Donc on peut toujours récupérer le cours de l'événement en ce sens-là. Mais il me semble intéressant de remarquer... Et c'est à ça que ça va être mon propos, que ce nouveau mot d'événement provient de ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie du spectacle. Et j'ai un petit peu insisté sur ce caractère, c'est lié à ce qu'on appelle le culturel aujourd'hui. Il est important que les événements, industrie du spectacle, les événements sont organisés parce que les événements, en ce sens-là, supposent en général des investissements. Il y a des gros moyens mis en œuvre, on mobilise du personnel, il faut du financement. Il y a des investisseurs qui veulent rentrer dans leurs fonds, et si possible même faire du bénéfice. Un événement doit rapporter, et au moins rapporter de la notoriété, comme on dit. La notoriété étant un bon investissement pour les événements futurs. Organiser un événement avec quelqu'un qui est devenu une star, ça permettra de gagner de l'argent avec l'événement. Et alors, la piste que je veux suivre, c'est celle-ci. C'est remonter de l'événement au sens de l'industrie du spectacle, disons, de l'industrie culturelle, à son origine dans la conception moderne de l'art. Et ce que je voudrais suggérer, c'est qu'on peut parler d'événement au sens contemporain parce qu'à un moment de notre histoire culturelle, il y a eu un sens spécial du mot « artiste », et plus spécialement peut-être du mot « poète » qui est apparu. Le poète, voire le poète avec un grand P, l'artiste romantique, on pourrait dire, c'est le premier spécialiste de l'événementiel. C'est-à-dire qu'il est le premier à avoir pensé se saisir du réel pour le transformer en événement. Il est le premier à avoir voulu fabriquer l'événement et pas seulement fabriquer de la poésie, ce qui était la tâche ordinairement dévolue au poète. Il s'est vu, on pourrait dire littéralement, poète, c'est-à-dire au fond fabricant, producteur, de manière plus noble, on pourrait dire créateur. Et l'industrie du spectacle, je crois, l'industrie culturelle en général, est difficilement concevable sans cette innovation qui est un fait marquant de la culture moderne. Et pour le côté industriel, on peut dire simplement, on remarquait que le capitalisme n'a fait que s'emparer, comme il s'empare de toute chose, pour faire des sous avec. Et je voudrais éclairer cette hypothèse sur l'origine de l'événementiel en m'éclairant de cette maxime de Victor Hugo qui est reproduite sur la feuille. C'est le petit texte du milieu, le plus court, le seul qu'on aura peut-être le temps de lire tous ensemble. C'est à lui, il parle du poète, c'est à lui qu'il appartient d'élever, lorsqu'il le mérite, les événements politiques à la dignité d'événements historiques. Donc, il est question ici de ce qu'on pourrait appeler une poétique de l'événement. Ça ne veut pas dire que les événements en question sont poétiques, encore moins romantiques, au sens que le mot a dans la culture actuelle, c'est-à-dire mélodie sirupeuse, petite bougie, ambiance tamisée et discussion à voix basse. Une poétique de l'événement, ça veut dire que l'art est capable de transformer l'événement, de le faire changer de statut, de dignité, comme dit Hugo. Et comme il s'agit d'art, et principalement de littérature, même si on peut transposer sans hésiter à la peinture, cette transformation est essentiellement une affaire de style. Alors, quel est l'enjeu d'une transformation poétique de l'événement ? Eh bien, on pourrait dire, en empruntant les termes de la poétique classique, que c'est le passage d'une description de l'événement en style bas à sa description dans le style élevé. J'explique. Dans la poétique classique, il y a deux styles majeurs, le style bas, qui est le style de la comédie, et le style élevé, qui est celui de l'épopée ou de la tragédie. Plus particulièrement encore de la tragédie. Le style bas, il est caractérisé par le langage familier, mais surtout, il correspond à la description, à la mise en scène de situations ordinaires, triviales, qui font penser à la vie courante. Les personnages sont des gens comme nous. C'est des cuisinières, des servantes, des fonctionnaires, des petits profs, des... je parle de moi, hein. du personnel ordinaire. Ces gens ont des projets à leur mesure. La comédie, ces projets de comédie, c'est un mariage avec la fille du banquier ou du gros commerçant du coin. Un poste à la clé, évidemment, dans l'affaire du futur beau-père. Une affaire juteuse dans la quincaillerie ou la robinetterie. Ça, ce sont des enjeux de comédie. Et la vie étant ce qu'elle est, ces projets sont évidemment contrecarrés par toute une série de péripéties, et notamment par les projets contraires des autres protagonistes. Et le comique de la comédie tient pour une large mesure au contraste entre les intentions des gens et les événements. Les événements qui démentent, si la comédie est morale, les intentions des méchants, et puis qui couronnent de manière inattendue les projets secrets des gentils. Et bien entendu, les événements sont à la hauteur des acteurs de la pièce, c'est-à-dire qu'ils n'ont guère d'impact sur le cours du monde et sur l'histoire universelle et le destin des civilisations. Alors, le style élevé, c'est autre chose. On est dans l'histoire avec un grand H. On est avec des princes et avec des reines, et surtout, on est avec des dieux. Si les projets échouent, ce n'est pas à cause du quincailler d'à côté, ou de la fille du banquier qui ne veut pas se laisser épouser, c'est parce que les dieux eux-mêmes en ont décidé autrement, qu'ils ont prévu autre chose. Eux, ils ont des plans à long terme. Les personnages de comédie ont des vies humaines, les personnages de tragédie, ils ont un destin. Et ils participent à des événements qui, par définition, les dépassent au sens littéral. Le personnage de comédie, il est comique parce qu'il est dépassé par les événements au sens ordinaire de l'expression. Le personnage tragique, il est dépassé par l'événement parce que l'événement est, par sa nature même, de ceux qui dépassent la mesure humaine. Les événements tragiques les dépassent parce qu'ils sont plus grands qu'eux, parce qu'ils sont en fait les œuvres de la Providence. Alors, la grande affaire des romantiques, ce fut de refaire une place au style élevé, alors que tout dans la vie moderne, à leurs yeux, tendait à la comédie. Dans le meilleur des cas, au drame bourgeois. On ne croit plus au Dieu, on ne croit même plus vraiment en Dieu. Le ressort du tragique paraît brisé. Et il appartient au poète, dans sa nouvelle mission, de le restaurer. Et puisque le ciel est vide, eh bien, c'est le poète qui sera le nouveau Dieu, ou en tout cas, quand il est modeste, son exécuteur testamentaire. C'est-à-dire qu'il prendra en charge l'exécution des volontés divines qu'il est le seul à pouvoir saisir. Le poète romantique prend en charge les événements. Et on trouve une illustration exemplaire, à bien des égards inaugurale, je crois, de ce dessin dans l'œuvre de Chateaubriand. J'ai choisi pour le montrer, pour l'illustrer, un chapitre étonnant des Mémoires d'Outre-Tombe. Chateaubriand vient de raconter la Révolution de 1830, les fameuses Trois Glorieuses, qui ont marqué toute la grande génération romantique. La Révolution de Juillet, comme on l'appelle, même si Chateaubriand est déjà sur le déclin, Victor Hugo l'a décrit, s'en empare, Vigny est en pleine maturité, et puis des plus jeunes comme Nerval, comme Théophile Gautier, ont tout juste 20 ans en 1830. On peut penser aussi au tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple. Parfait exemple de la transformation de l'événement, la transformation héroïque de l'événement, le passage au style élevé. Tout ça témoigne de cet impact des Trois Glorieuses sur les peintres romantiques. Et alors, le dernier chapitre consacré par Chateaubriand au récit des trois Glorieuses, des Journées de Juillet, s'intitule bizarrement « Ce que sera la Révolution de Juillet ». C'est un texte dont donc je reproduis quelques extraits significatifs dans c'est le premier texte. Ce que sera la Révolution de Juillet, c'est un futur. Et c'est ce futur qu'il faut comprendre parce qu'il contient le sens poétique du mot événement. Au premier paragraphe, j'ai peint les trois journées à mesure qu'elles se sont déroulées devant moi, une certaine couleur de contemporanéité, vraie dans le moment qui s'écoule, fausse après le moment écoulé, s'étend donc sur le tableau, analogie picturale. Il n'est révolution si prodigieuse qui, décrite de minute en minute, ne se trouve à réduite aux plus petites proportions, etc. Donc Chateaubriand commande son propre statut de témoin, de contemporain de l'événement. Le témoin contemporain ne voit que des trivialités, on pourrait dire, des événements de comédie. Des projets avortés, des intentions mesquines, des lâchetés, des succès dus au hasard, des gestes héroïques et désespérés. Bref, un confus mélange dont aucun sens clair ne semble pouvoir se dégager. Le témoin contemporain n'a qu'un point de vue partiel. Il ne peut peindre des scènes qu'en style bas. Pour juger impartialement de la vérité qui doit rester, continue Chateaubriand, il faut donc se placer au point de vue d'où la postérité contemplera le fait accompli. Cela devrait sembler un aveu d'impuissance. Le témoin, celui qui vient de décrire l'événement, devrait dire « Attendons donc le jugement de la postérité sur ce qu'a été, en vérité, la Révolution de Juillet. » L'histoire jugera, comme on dit couramment. Et c'était assez pour le témoin d'avoir tâché de décrire fidèlement ce qu'il voyait. La postérité pourra prendre la vue d'ensemble. Or, ce n'est pas du tout ce que dit Chateaubriand dans ce chapitre. Il ne s'en remet pas au jugement de la postérité. Il anticipe ce jugement. Il prononce ce que sera la Révolution de Juillet. Et que sera-t-elle ? Cette révolution a prononcé un arrêt contre tous les trônes. Les rois ne pourront régner aujourd'hui que par la violence des armes, moyen assuré pour un moment, mais qui ne saurait durer. L'époque des janissaires successifs est finie. Un arrêt contre tous les trônes. Ce que le témoin de l'événement pouvait dire, tout ce qu'il pouvait constater, c'est que la Révolution de Juillet avait marqué la fin du règne de Charles X et inauguré le règne de Louis-Philippe, roi des Français, changement en apparence mineur, monarchie constitutionnelle, etc. Bon. Mais non. L'écrivain, ici un peu prophète, veut dire ce que sera la révolution de juillet, non pas dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 30 ans, mais ce qu'elle est, on pourrait dire, à jamais pour l'éternité. C'est le sens du contraste qu'il établit, c'est le troisième paragraphe, entre les historiens, Thucydide et Tacite, et quelqu'un comme Bossuet. Thucydide, historien grec de la guerre du Péloponnèse, et Tacite, ne croyaient pas au sens de l'histoire. Ils racontent les événements, essentiellement, on pourrait dire, pour essayer d'instruire leurs contemporains des conséquences funestes, des passions qui se disputent éternellement le cœur des hommes, et en particulier l'orgueil. Quand Thucydide raconte la guerre du Péloponnèse, hein, il ne pense pas, il ne vient pas à l'esprit de dire ce que sera la défaite d'Athènes, c'est-à-dire, par exemple, la fin de la cité grecque, l'époque des grands empires ou des choses comme ça. Prendre le point de vue de Bossuet, ce que Chateaubriand revendique ici, c'est le point de vue de la Providence, c'est saisir l'événement, non pas du point de vue de l'avenir proche, mais vraiment du point de vue de l'éternité. Ce que sera la révolution de juillet, c'est ce qu'elle sera à jamais. Sa signification, qu'on peut dire éternelle, telle qu'elle a été fixée par la Providence. Il y a une œuvre providentielle qui s'accomplit à travers et malgré la médiocrité des hommes, dont parlait Chateaubriand en tant que témoin. Et cet événement historique, cette signification éternelle de la révolution de juillet, c'est, en l'occurrence ici, la substitution du principe démocratique au principe monarchique, du principe de la souveraineté populaire au principe de la souveraineté royale. Et là, la transition au style élevé s'est effectuée. Ce qui était échauffouré du point de vue du témoin contemporain est devenu événement historique. Et historique ici veut dire véritablement... Chateaubriand, providentiel, un philosophe un petit peu phénoménologue dirait épocal, hein, c'est-à-dire ce par quoi l'événement marque un changement d'époque, ce par quoi un nouveau cours de l'histoire humaine a été engagé par l'événement. Rien ne sera plus comme avant. L'événement a un sens pour tous les temps. Tout est nouveau, même si en apparence les changements sont mineurs. Donc pour reprendre la formule de Hugo, l'événement politique ici s'est transmué en événement historique. Il fait époque, il appartient à l'histoire universelle. Pour le dire autrement, il y a un moment dans l'histoire du monde où, du point de vue de l'éternité, le centre de l'histoire était Paris et la révolution qui s'y accomplissait. L'événement singulier est devenu événement mondial. Le point de vue du contemporain, dit Chateaubriand, il est vrai dans l'instant, mais il est faux du point de vue universel. La vérité de l'événement, telle qu'elle s'imposera pour toujours, n'est perçue que par celui qu'éclaire le génie. Alors, avant de revenir sur ce précédent de Chateaubriand et le rôle que je lui fais tenir dans notre histoire du sens mot événement, je voudrais... insister sur le côté paradoxal de cette compréhension de l'événement. On ne peut qu'être frappé, lorsqu'on lit cette page de Chateaubriand, de constater que, au fond, ce qu'il prône, c'est une histoire légendaire. Bien entendu, dans la mesure où cette légende a encore une prise sur nous, on peut trouver quelque chose d'effectivement prophétique dans ce jugement de Chateaubriand. On peut admirer son discernement. Si on croit vraiment, par exemple, que le principe démocratique s'est imposé définitivement à un moment de l'histoire. Si on prend un peu plus de recul, on se rend bien compte, instruit peut-être par ce qui s'est passé entre-temps, hein, que ce n'est pas si clair. C'est pas du tout si clair. L'avènement du principe de la souveraineté populaire, c'est également l'avènement d'un nouveau type de dictature. Ce qu'on appelle les régimes autoritaires, et on est aux portes du Second Empire. Peut-être ça ne nous fait pas très peur, le Second Empire. Enfin, on a connu mieux, si on peut dire, pire que le Second Empire, si je puis dire. Ensuite, mais c'est la rencontre inattendue et imprévisible, du point de vue de la légende, entre le principe autoritaire et le principe de la souveraineté populaire, la formule de base du totalitarisme. C'est-à-dire cette, la transformation du peuple en masse, hein, la transformation, et par conséquent, ça, hein, ça, son potentiel destructeur colossal. Donc on peut être moins optimiste que Chateaubriand ne l'était, même si on sent bien, quand on lit les mémoires, qu'il se convertit à la démocratie un petit peu à contre-cœur, mais il est néanmoins convaincu que c'est le sens de l'histoire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un paradoxe inhérent à la formule qu'il propose. Et c'est le paradoxe qui est mis en lumière par Kierkegaard quand il examine le rapport entre l'instant et l'éternité. Chateaubriand veut, au fond, qu'un instant, un moment de l'histoire, possède une signification éternelle. Il veut que l'instant soit, en un certain sens, une manifestation de l'éternel. Je crois que c'est ça le sens de la transfiguration poétique de l'événement. Et Kierkegaard, dans Les Miettes philosophiques, a élaboré ce paradoxe de la manifestation de l'éternel dans le temps en établissant un contraste entre deux types d'événements. L'événement qui a des témoins, celui qui se déroule entièrement dans le temps de l'histoire, et puis l'événement qui, littéralement, n'a pas de témoins parce que sa signification transcende l'histoire. J'explique. Pour Kierkegaard, lorsqu'il parle de l'événement qui n'a pas de témoin, qui n'appartient pas à l'histoire profane, il pense évidemment à l'incarnation. Événement paradoxal en lui-même, puisque l'éternel, littéralement, entre dans le temps. Dieu s'incarne, Dieu se fait homme. Le Dieu, comme il dit dans ce texte plein d'humour et en même temps très, très profond, très singulier, le Dieu se fait serviteur. C'est un événement inouï, parfaitement imprévisible, mais sa particularité n'est pas dans son caractère original ou nouveau. Sa particularité, c'est que l'événement ne peut être saisi que dans la foi. Le contemporain de l'événement ne verra, dans le meilleur des cas, que le serviteur. Il ne verra pas le Dieu. Pour reconnaître l'événement, il faut croire au sens révélé de l'événement. Il faut croire ce qu'on ne peut pas voir. Ce qu'on voit avec ses yeux n'est qu'une petite partie de l'événement, n'est qu'une composante indispensable, importante de l'événement. Le sens véritable n'est pas uniquement dans le visible. Tout ce texte, on pourrait dire, de Kierkegaard, c'est un commentaire de la formule évangélique. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. L'événement en ce sens-là, il opère un clivage au sein de l'humanité entre ceux qui l'auront reconnu et ceux qui seront passés à côté. Kierkegaard note d'ailleurs avec à juste titre que, en fait, la relation est inverse. En fait, c'est le Dieu qui connaît les siens. Il ne connaît pas les autres. Quand il dit « je ne te connais pas », ça veut dire que celui-là qui est devant lui mais qui refuse de croire ne se tient pas vraiment devant lui en tant qu'il est l'éternel présent dans le temporel, qu'il est le Dieu fait homme. Celui qui est devant lui et qui ne croit pas, peut-être qu'il voit en lui un thaumaturge, un prophète, faiseur de miracles, un maître de sagesse, un guide spirituel. Mais il ne voit pas le Dieu. En ce sens, il n'est pas le contemporain de l'événement. Parce qu'il n'habite pas le même temps et le même lieu que celui qui est l'événement. Alors que celui qui croit, celui que Kierkegaard appelle le disciple, car la seule relation possible à cet événement, c'est d'en devenir, de s'en faire le disciple, ou plutôt d'accepter de recevoir du Dieu lui-même la condition de disciple, lui, il est le véritable contemporain. Et donc, le paradoxe kierkegaardien, c'est que le contemporain qu'il appelle dans le texte que j'ai recopié, le contemporain au sens immédiat, celui qui a vécu en même temps que le Christ, au même endroit, par exemple, n'est pas le véritable contemporain. Et en revanche, le disciple, même s'il est dans la lointaine postérité, il est le véritable contemporain. Le contraste est avec l'événement quelconque de l'histoire profane. Kierkegaard prend l'exemple d'une fastueuse noce impériale. Cet événement, il a des témoins, il y a des gens qui ont été là, ils ont participé à la fête mémorable qui n'était pas forcément organisée par des spécialistes de l'événementiel, mais qui était quand même faite pour marquer son temps. Ils ont été contemporains de l'événement, et en ce sens, dit-il, on peut les dire bien heureux, parce que leurs yeux ont vu, leurs oreilles ont entendu ce qu'il y avait à voir et à entendre. Tout ce qu'il y avait dans l'événement était à voir et à entendre. La postérité, elle, n'y était pas. Elle pourra le regretter ou elle pourra se reporter au récit des témoins pour se faire une idée de l'événement, hein, mais elle ne sera jamais témoin. Et dans l'histoire sacrée, au contraire, le véritable contemporain, c'est le disciple, celui qui croit, celui qui, en croyant, se fait le disciple du maître. C'est lui qui participe vraiment à l'événement. Et c'est pour lui que l'événement est décisif. C'est pour lui, c'est pour sa vie que l'événement revêt sa signification véritable d'événement. C'est pour lui qu'un changement inouï, définitif, se produit. D'où donc le paradoxe. Le non-contemporain de l'événement peut être... le contemporain de l'événement peut être l'homme de la postérité. Et le contemporain au sens immédiat, le témoin oculaire, peut très bien passer à côté de l'événement. Bien entendu, le disciple, qui est au sens immédiat non contemporain, mais qui est le véritable contemporain, il est lui aussi véritablement bien heureux. Alors, en quoi ceci peut éclairer la conception de l'événement historique que propose Chateaubriand ? D'abord en ceci, je ne sais pas si le rapprochement est convaincant ou si j'ai été clair, mais en ceci qu'au fond, ce que propose Chateaubriand, c'est de faire entrer l'histoire humaine dans une histoire sacrée, dans une forme de temporalité sacrée. L'attitude moderne vis-à-vis de l'histoire, dont Chateaubriand est un des inventeurs, consiste à élever l'histoire humaine à la dignité d'une histoire sainte. L'histoire doit être lue, on pourrait dire, comme le déroulement d'un projet éternel, ou plus exactement, puisque le plus grand monde ne croit à la Providence, l'histoire est en un certain sens sa propre éternité, hein, ou si on veut, l'homme est son propre Dieu. Michelet dira, hein, l'humanité est son œuvre à elle-même. Elle se produit elle-même à travers l'histoire. Et on appelle événement, dans cette nouvelle conception, ce qui marque un seuil dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire ce qui réalise une transformation décisive dans le sens, pour ces romantiques optimistes, d'un progrès, peut-être indéfini, de l'humanité dans sa production par elle-même. Tout ça aurait eu un écho très différent dans une époque de marxisme triomphant, dans lequel la croyance au sens de l'histoire est quelque chose de, était quelque chose de sérieux, et on pourrait dire on a dépassé tout ça, même si en préparant cette conférence, hein, je pensais à ces échanges qui maintenant nous paraissent surréalistes, entre, par exemple, Merleau-Ponty, un petit peu revenu du marxisme, et Sartre, hein, Sartre soutenant qu'on ne pouvait pas juger la révolution soviétique avec les mêmes critères que n'importe quel autre événement. Quand il s'agit d'événements touchant à l'Union soviétique, il faut les juger d'après les intentions, alors que les autres, on doit les juger d'après ce qu'ils ignorent. Donc les capitalistes seront toujours mauvais, ils auront toujours tort, et y compris les révolutionnaires de 1956 en Hongrie seront toujours du mauvais côté, parce que le véritable événement définitif, c'est la révolution bolchevique. Et tout ce qui est dans son sillage inspiré par ce projet est ce qui est le sens véritable de l'histoire. Je vous épargne des citations, j'en avais quelque part. Alors, même si le marxisme a perdu de son prestige, je crois qu'aujourd'hui encore, l'idée de liberté, par exemple, nous paraît largement valable comme substitut à l'avènement de la société sans classe. Et pour nous, ce que nous tendons à appeler « événement », est ce qui marque un progrès de la liberté, ce qui marque, de ce point de vue-là, une nouvelle étape dans la production de l'humanité par elle-même. Les révolutions arabes, dont bien malin qui peut dire aujourd'hui en réalité ce qu'elles seront, les révolutions arabes ont été saluées comme l'événement de l'année. L'homme de l'année, c'était l'indigné aussi, j'ai lu ça pour un des magazines. parce que on veut absolument voir dans ces manifestations une nouvelle étape, en l'occurrence du progrès démocratique. Mais il est clair aussi que les innovations technologiques, scientifiques, sont évaluées en fonction de cette idée de la liberté. Toute innovation qui semble devoir permettre à l'homme de s'affranchir un peu plus, par exemple de la matière, ou du passé, de son corps, des normes fixées, vaut événement. Que chaque individu puisse, par exemple, se donner un nouveau corps, un corps qui correspondrait à celui qu'il veut véritablement être, cela sera salué comme un événement historique, parce que ce sera une étape dans l'histoire de la liberté. Et je crois que cette aspiration à la production de soi-même au plan individuel, c'est aussi un des fantasmes qui travaille les plus en profondeur notre époque. Plus prosaïquement, on pourrait remarquer que la conception poétique de l'événement explique en bonne partie la difficulté qu'ont les journaux, en général aujourd'hui, à rapporter ce qui arrive, lorsque ce qui arrive ne se laisse pas facilement inscrire dans l'histoire légendaire. Tout ce qui est perçu comme la simple survivance d'un passé déjà condamné ne parvient pas à faire sens pour le journaliste qui veut chroniquer l'histoire du point de vue de l'éternité. Il n'y a pas d'endroit pour enregistrer ça. Sauf bien sûr si on peut classer cet événement dans la case résistance obstinée, travail maléfique du parti des anciens qui essaye vainement évidemment de déjouer les aspirations du parti des modernes. Il y a des conflits parce que les vaincus de l'histoire ne veulent pas croire, n'ont pas encore compris qu'ils sont déjà vaincus. En un sens, on pourrait dire qu'il leur manque la foi. Il leur manque la foi. Ils sont en réalité, pour nous, des non-contemporains. Tous ceux dont le travail, l'œuvre, ne peut pas être enregistré, inscrit dans l'histoire légendaire, sont traités systématiquement comme des non-contemporains. Peuvent être là comme des survivances archaïques. Il faudrait s'en débarrasser. On peut enregistrer leur déclin. On peut chroniquer leur déclin et essayer de vérifier la légende en quelque sorte en enregistrant les faits qui semblent la confirmer. Mais il y a essentiellement un malaise à l'égard de ce type d'événement. J'en reviendrai à la conclusion, je vais terminer en revenant sur le texte de Chateaubriand et en refaisant la transition avec l'événementiel dont je suis parti. Chateaubriand dit, avec une modestie qu'on peut supposer feinte quand on connaît sa propension à la modestie, que cette signification de l'événement, c'est le dernier paragraphe du texte, échappe aux esprits superficiels, mais qu'elle est saisie par les esprits réfléchis. En réalité, il pense bien être le seul à ce moment-là à avoir aperçu cette signification de l'événement et se permet de prononcer dans l'instant ce que sera Juillet dans l'éternité. Ce qui est événement en ce sens comporte une leçon pour nous qui y pensons aujourd'hui, si on est dans le point de vue de Chateaubriand. Nous avons nous-mêmes en un sens à prendre position par rapport à cet événement. Nous avons à en tirer la leçon. Si nous sommes superficiels, nous pouvons n'y voir qu'un accident, continuer par exemple à croire au principe monarchique. Mais si nous sommes réfléchis, nous nous rangerons sagement dans le parti vainqueur. On pourrait dire que Chateaubriand invente le journalisme moderne, puisqu'il se propose de dégager sur le moment, sans attendre le recul du temps, la signification des événements. Et à partir de Chateaubriand, journaliste transcendantal si on veut, la presse pourra assumer, forte de ce précédent, qui n'est qu'un exemple parmi d'autres, sa tâche de direction des consciences. Tâche qui est simple dans son principe. Il s'agit de louer, d'exalter, autrement dit de peindre en style élevé ce qui est absolument nouveau, ce qui marque un tournant de l'histoire, et de condamner, de reléguer dans l'obscurité d'un passé révolu ce qui est ancien, ce qui est déjà d'une autre époque. Le monde est divisé en deux. Dans cette lecture, il y a les anciens et les modernes, ceux qui se trompent d'époque, qui survivent, et ceux qui sont pleinement de leur temps. Alors, la direction des consciences est nécessaire pour indiquer au fur et à mesure, évidemment, les ajustements requis pour rester dans l'époque, pour ne pas se laisser dépasser par elle. La première génération romantique a cru intensément à sa mission prophétique. Elle se voyait en charge d'annoncer déjà ce qui sera, et Victor Hugo s'emparait des événements historiques, des événements politiques, pardon, pour les élever à la dignité d'événements historiques. De ce point de vue, je vais citer quelques textes, mais je signale le principe. Ce n'est plus la politique qui est le lieu de l'événement dans la poétique de l'événement qui aboutit à notre événementiel. Mais il est bon et sympathique en même temps de se rappeler un petit peu à quel point les romantiques ont cru à leur vocation de prophète. Victor Hugo encore disait, à peu près à la même époque, en s'adressant aux hommes de pouvoir, « Vous n'avez pas remarqué une chose, c'est que dans les époques comme celle-ci, le sceptre change de forme comme tout le reste. Il y a 30 ans, le sceptre, c'était une épée. Aujourd'hui, le sceptre, c'est une plume. » Il disait aussi « Quand la foi manque au peuple, il leur faut l'art. À défaut de prophète, le poète. » Ou encore, quelques vers, « Peuple, écoutez le poète, écoutez le rêveur sacré, dans votre nuit sans lui complète, lui seul a le front éclairé. » Pour changer un peu, Vigny, dans Les Destinées, à propos de la poésie, « Diamant sans rival, que tes feux illuminent, diamant, je pense, sans rival, c'est Vigny, hein, c'est un peu plus lourd, que tes feux illuminent les pas lents et tardifs de l'humaine raison. Il faut pour voir de loin les peuples qui cheminent, que le berger, avec un grand B, c'est le poète, t'en chasse au toit de sa maison. Le jour n'est pas levé, nous en sommes encore au premier rayon blanc qui précède l'aurore et dessine la terre au bord de l'horizon. » Tous ces textes participent de ce qu'on a pu appeler le temps des mages ou le temps des prophètes, le temps des bergers, à l'époque où l'artiste romantique se croit réellement en charge du destin de l'humanité. Lui entrevoit déjà ce que sera l'avenir et il se voit un peu comme la liberté de Delacroix guidant le peuple en première ligne. Si on peut dire, les événements ont démenti assez rapidement l'espérance de ces poètes prophètes, mages ou bergers. Et la génération romantique qui a suivi, la génération qui a connu et qui a pris de plein fouet la révolution de 1848, fut la génération du désenchantement. C'est la naissance des romantiques, on pourrait dire, antimodernes, comme Baudelaire ou comme Flaubert, en un certain sens. Mais pour nous, la mutation décisive, c'est que le poète va renoncer à conduire les peuples, qui va renoncer à prononcer pour l'éternité le sens des événements politiques, mais il ne renonce pas pour autant à sa vocation primordiale. Il l'accomplira dans le seul domaine de l'art. L'événement véritable, c'est-à-dire ce qui est produit par le poète, ce sera l'œuvre elle-même. Et pour être moderne, il faudra que toute œuvre soit elle-même événement, que l'instant décisif soit l'instant poétique. Il n'y aura en ce sens de véritable modernité qu'artistique, et c'est dans l'art que se jouera l'opposition de l'ancien et du moderne. On peut dire que jusque-là, avant les romantiques, l'idéal de l'artiste était de parvenir au sommet de son art, c'est-à-dire de maîtriser à la perfection les techniques de l'époque, de leur faire exprimer ce qu'elles recelaient de meilleur. Et c'est comme ça que les chefs-d'œuvre du passé peuvent apparaître comme la quintessence d'un moment de l'histoire de l'art. Avec le romantisme, l'art du poète est dans l'innovation, non pas dans la maîtrise parfaite des techniques héritées du passé, mais dans la rupture avec ces techniques. Donc, si on veut, dans la transgression. l'idéal de l'événement, de ce point de vue-là, ça deviendra dans l'art contemporain ce qu'on appelle un « happening », c'est-à-dire littéralement un événement, quelque chose qui arrive et qui vaut simplement parce que ça arrive dans la mesure où c'est nouveau, dans la mesure où c'est jamais vu, dans la mesure où c'est inouï. Que quelque chose arrive, en soi, ça pourrait sembler banal, hein, mais l'œuvre, qui est un « happening », marque, est censé marquer une avancée irrévocable. Il y a ce qui s'est déjà fait, qu'on a déjà vu mille fois, vous lisez les chroniques, les critiques d'art, etc., on voit ce vocabulaire, et c'est déjà condamné, ça ne vaut plus rien. Et puis, il y a ce qui est nouveau, il y a ce qui n'est jamais vu, ce qui est véritablement spectaculaire, ce qui est héroïque dans la rupture. Et dans cette conception où on reconnaît le signalement convenu des avant-gardes, le défi principal, la difficulté, c'est de réussir à faire véritablement du nouveau, pas du faux nouveau, pas du pastiche, et pas du simplement original, ou du simplement intéressant. Le vrai nouveau, il doit s'imposer par lui-même comme une rupture, il doit explorer une nouvelle voie. Et c'est en ce sens que l'œuvre fait événement, que le poète, que l'artiste produit l'événement à travers son œuvre. Le plus insupportable serait que l'événement reste sans témoin. D'où l'importance aujourd'hui pour les avant-gardes de convoquer la presse, d'annoncer au public où il doit se trouver pour prendre part à l'événement. Au moins la presse doit, spécialisée, doit rendre compte de l'événement pour informer ce que Chateaubriand appelait les esprits réfléchis, du nouveau cours du monde qui a été infléchi par l'œuvre « Événement » et leur permettre de mettre à l'heure leur chronomètre pour savoir où diriger leurs pas. Le mieux étant quand même qu'ils puissent être véritablement protagonistes de l'événement, qu'ils ne courent pas le risque de ne pas y avoir été. Et c'est ainsi que l'industrie du spectacle pourra s'emparer de l'idéal artistique moderne et de le décliner en produit de consommation. Pour ça, il restait un pas conceptuel à franchir. Dans la conception avant-gardiste de l'événement, il est important que l'artiste soit en quelque manière héroïque. Produire une œuvre qui fasse événement suppose un travail, et même, on veut le croire, un douloureux travail. S'affranchir de toutes sortes d'héritages, de pesanteurs du passé, des techniques, etc. S'arracher véritablement à son époque. Et l'avant-garde artistique exalte le risque. Elle insiste sur les dangers encourus par l'artiste. Les œuvres sont risquées. Et puis peut-être que le public ne comprendra pas. C'est peut-être trop nouveau. Ou bien ce sera peut-être simplement raté. L'idée, parce que dans cet art-là, tout est quand même affaire d'idées, n'est pas forcément bonne. On pourrait dire qu'en ce sens que les caves de l'art contemporain sont remplies d'événements avortés. L'artiste se console en se disant que le public, qu'il était trop en avance sur son temps, mais le public, lui, peut avoir le droit de juger que l'œuvre proposée était simplement insignifiante. Alors l'événementiel contemporain ne prend pas ce genre de risque, ne court pas le risque, en quelque sorte, du jugement du public. Il réduit au maximum la part du hasard en annonçant lui-même ce qui sera événement. Il abolit en fait totalement la dimension du futur avec ce qu'il comporte d'incertitude. Il organise non seulement la production de l'œuvre, mais l'événement lui-même, c'est-à-dire la rencontre, normalement, entre l'œuvre et le public. Chateaubriand disait d'un événement tout chaud, tout juste passé, ce qu'il serait dans l'éternité. Les spécialistes de l'événementiel, qui sont plus pragmatiques, organisent dès maintenant ce qui sera l'événement futur. Ils ont déjà convoqué les témoins, ils ont déjà averti la presse, ils peuvent déjà expliquer ce qui n'est pas encore. En sorte, leur travail ne porte pas sur le futur lointain d'un passé proche, comme fait Chateaubriand, mais sur le futur proche d'un avenir immédiat. Il est vrai aussi qu'ils ne visent pas en fait à l'éternité et que leur ambition se réalise à organiser ce qui devra être à un moment donné le centre de l'actualité. J'ai vu dans une annonce décrivant un poste d'organisateur d'événements que parmi la dernière mission de l'organisateur d'événements, c'est le démontage de l'événement. Donc il faut démonter l'événement, c'est-à-dire assurer son passage au passé. Il a été, s'il a été réussi d'actualité, et ensuite on peut le ranger. Alors avant de conclure, je voudrais signaler par honnêteté ce que cette conception de l'avant-garde que j'ai évoquée rapidement a évidemment de trompeur et de naïf, même si c'est celle qui est volontiers proposée. J'ai même fait un raccourci assez brutal entre romantisme et avant-garde artistique, parce que c'est au romantisme que l'avant-garde emprunte son rapport particulier au temps et à l'œuvre d'art. Mais cette conception de l'avant-garde, évidemment, ne vaut pas grand-chose, même pour l'histoire de l'art. Ne serait-ce que pour ce défaut majeur qu'elle ne connaît que l'opposition de l'ancien et du moderne. Or, la véritable modernité artistique, qui commence justement avec le romantisme, ne peut être rangée exclusivement dans la catégorie de la modernité ou de la nouveauté. Et ce qui la caractérise bien mieux, notamment par rapport au classicisme, c'est son caractère mixte, son caractère mélangé. L'art romantique innove précisément en empruntant volontiers à ce qui n'est pas présent, c'est-à-dire à ce qui est lointain dans le temps ou dans l'espace. Dans le temps, en empruntant aux formes archaïques. Pour un romantique, l'archaïsme, c'est le Moyen-Âge, par exemple. C'est-à-dire ce qui est archaïque, car avant la Renaissance et avant les Lumières. Ou alors, il emprunte à ce qui est primitif. Par exemple, aux formes esthétiques de l'art égyptien, par opposition ou de préférence à l'art gréco-romain. Et ce qui n'est pas présent dans l'espace, c'est l'exotique. Par exemple, l'oriental, l'extrême-oriental. La rupture dans la tradition de l'art occidental qu'opère le romantisme, ce sont de nouveaux sujets, de nouvelles manières qui font ressurgir, qui représentent un fond primitif ou une actualité lointaine, on pourrait dire, en la combinant avec des éléments nouveaux. Ce n'est pas simplement du pastiche, on ne fait pas de l'art égyptien, on ne fait pas de l'art turc oriental, ou de l'art médiéval. Mais on combine, quand on est un artiste doué, les éléments médiévaux avec quelque chose de la sensibilité moderne. On aura des paysages avec des ruines d'abbayes, etc., mais qui auront quelque chose de volontiers sinistre, d'habiter ou de déserter, plus exactement, c'est-à-dire empreint d'une solitude qui marque une sorte de vide métaphysique. Le passé médiéval fait sens en tant qu'il évoque nostalgiquement une époque définitivement révolue. Et la sensibilité de l'époque, c'est précisément la conscience aiguë du fait que le ciel est vide, que la foi est morte. On pourrait appliquer, je crois, très facilement cette conception encore à l'art de Picasso. Donc, il est évident qu'il n'est pas uniquement transgressif et novateur, qu'il est nouveau, qu'il est moderne, précisément en tant qu'il y a quelque chose d'archaïque dans l'art de Picasso. Et plus généralement, je crois qu'on peut dire que la faiblesse intrinsèque de la conception que j'ai appelée poétique de l'événement tient à son incapacité à accueillir le caractère mélangé de toute époque, et particulièrement de la nôtre. Il y a de tout sur la scène. Il y a du nouveau, même parfois peut-être du très nouveau, mais il y a aussi de l'ancien, de l'archaïque, du traditionnel, et surtout beaucoup de doux mélanges. Autrement dit, les changements en cours à notre époque ne sauraient se réduire à l'affrontement entre l'ancien et le moderne, entre un parti, la partie du progrès, si on veut, et le parti de l'ordre, que ce soit en matière politique, économique ou religieuse, aussi bien qu'en matière artistique et spectaculaire. Il y a des événements, il y a des mouvements divers à l'œuvre dans l'époque qui, parce qu'ils partagent le même temps, interagissent, se modifient les uns les autres, dévident leurs lignes et proviennent chacun d'origines diverses, obéissant à des temporalités différentes. Les événements résultent de la rencontre de temporalités, de ces temporalités diverses et de ces projets hétérogènes. Et la nouveauté aujourd'hui n'est pas l'œuvre des producteurs de nouveautés, des spécialistes de l'événement ou des poètes du temps présent. Elle est bien plutôt le résultat généralement imprévu d'intentions concurrentes de rencontres inopinées dans lesquelles le hasard joue un rôle considérable. On a vu récemment ce qu'un tremblement de terre pouvait opérer dans le champ économique et même dans le champ politique. Ma conclusion consistera donc d'abord à souligner qu'on manque cruellement aujourd'hui, je crois, d'outils intellectuels pour ne serait-ce que nous orienter dans l'époque. Nous sommes tous conscients, je crois, du caractère réducteur. J'ai réduit encore la réduction en disant les anciens et les modernes, parce qu'au fond, je crois que c'est la grille qui reste à l'œuvre. On se rend bien compte que ça ne marche pas. On se rend bien compte que pour appréhender un phénomène comme les révolutions arabes, il faut arriver à appréhender, à trouver une formule pour comprendre la combinaison paradoxale à nos yeux d'aspirations démocratiques et peut-être également d'une temporalité archaïque ou en tout cas beaucoup plus ancienne avec une dimension religieuse qui n'entre pas a priori dans notre conception du moderne, ni même de la démocratie. On est singulièrement, je trouve, démunis face aux événements. Et ma conclusion finale consiste à corriger le jugement de Chateaubriand sur le point de vue des témoins. Il dit que les contemporains du grand événement n'ont que des impressions partielles et trompeuses. Ils ne sont pas impartiaux, dit-il, faute d'accéder à, je cite, au point de vue d'où la postérité contemplera le fait accompli. Et c'est pour le moins, je crois, une présentation incomplète du statut de contemporain. Chateaubriand les traite comme de purs spectateurs et en plus des spectateurs qui seraient dans la salle de spectacle placés dans la fosse. C'est-à-dire que non seulement ils ne voient pas toute la scène, mais ils voient que les détails absurdes, les lacets d'effet de l'acteur, ils remarquent l'expression effarée de la comédienne qui a oublié son texte, ils entendent la voix du souffleur, et c'est pour eux, c'est ça le spectacle. Les témoins, les contemporains des événements que nous sommes, ne sont pas de purs spectateurs. On est, si on veut, sur la scène aussi. On est acteur. Et nos réactions ne sont pas des réactions purement esthétiques, ce sont des réactions affectives. Nous nous réjouissons lorsque les événements tournent comme on l'espérait. Nous nous irritons de voir des occasions ratées, des occasions perdues. Nous nous désolons d'échecs ou de désastres. On n'est pas en position d'interpréter l'événement, mais parce que nous sommes dans la position, en un certain sens, d'y intervenir, que au moins ces événements nous intéressent directement en tant qu'ils affectent nos projets et même nos idéaux. L'événement est pour nous, quand il se déroule, une occasion à saisir. Il doit nous permettre de réaliser, grâce à lui ou parfois malgré lui, ce qui nous tient à cœur. Et c'est dans ce rapport délicat entre les occasions et les intentions, entre l'événement qui se déroule, qui est encore en cours, dont le sens n'est pas encore accompli, d'une part, et d'autre part, les initiatives des acteurs, les objectifs, les aspirations, les idéaux, c'est ce rapport délicat qui est la situation véritable de la liberté humaine.